Chapitre 3. Les ombres de la nuit. Chose étonnante, pour qui veut y réfléchir, que tous les hommes soient constitués de façon à être les uns pour les autres un mystère impénétrable. Lorsque j'entre dans une grande ville pendant la nuit, c'est pour moi une considération grave que de penser que chacune de ces maisons groupées dans l'ombre a des secrets qui lui appartiennent, que chacune des chambres qu'elle renferme a son propre secret, et que chacun des cœurs qui battent dans ces milliers de poitrines est un secret pour le cœur qui lui est le plus cher et le plus proche. Il y a dans ce mystère quelque chose qui ajoute à ce que la mort a de terrible et de poignant. Je ne pourrai plus tourner le feuillet de ce livre aimé que j'espérais vainement lire jusqu'au bout. Je ne sonderai plus du regard cette eau profonde où, à la lueur des éclairs, j'ai aperçu un trésor. Il était écrit que le livre se fermerait pour toujours, aussitôt que j'en aurais déchiffré la première feuille. Il était dit que l'onde, où je plongeais mes yeux avides, se couvrirait d'une glace éternelle, au moment où la lumière se jouait à sa surface, et que je resterais sur le rivage, dans mon ignorance des richesses qui s'y trouvaient contenues. Mon voisin, mon ami est mort, celle que j'aimais, qui était la joie et le bonheur de mon âme, a cessé de vivre. C'est l'inexorable continuité du secret qui fut toujours au fond de leur âme, comme il en est un en moi que j'emporterai dans la tombe. Y a-t-il, dans les cimetières de cette cité que je traverse, un dormeur plus impénétrable que ne le sont, pour moi, dans leur fort intérieur, les habitants affairés de ces rues les plus vivants, ou que moi-même je ne le suis pour eux tous. Le pauvre messager de Tellson avait à cet égard, en sa qualité d'homme, exactement la même puissance que le roi, le premier ministre de l'État ou le plus riche marchand de la capitale. Ainsi des trois voyageurs enfermés dans la malle-poste de Douvres. Chacun était pour les deux autres un mystère aussi complet que s'il avait été dans son carrosse à 4 ou à 6 chevaux, et que le territoire d'un ou deux comtés l'eût séparé de son voisin. L'émissaire de la banque trottinait du côté de Londres. Il s'arrêtait presque à chaque taverne, mais il se tenait à l'écart, ne disait rien et portait son chapeau enfoncé jusqu'aux sourcils. Les yeux du pauvre homme se trouvaient, du reste, parfaitement en rapport avec ses mesures de prudence. Noir à la surface, mais sans profondeur aucune, ils se rapprochaient l'un de l'autre comme s'ils avaient craint, en se séparant, d'être surpris, chacun de son côté, dans quelque besogne compromettante. Les regards qu'ils jetaient sous les bords retroussés d'un vieux chapeau, ressemblant à un crachoir à 3 cornes, et par-dessus l'immense cache-nez qui de la paupière descendait jusqu'au genou, avaient une expression sinistre. Voulaient-ils boire? L'émissaire de Tellson se découvrait la bouche, y versait la liqueur qu'il tenait de la main droite, et laissait retomber l'immense cache-nez dès que l'opération était faite. « Non, Jerry, non !» se disait-il pendant qu'il trottinait sur la route, en ruminant la réponse qu'il rapportait à ces messieurs. « Non, Jerry, ce ne serait pas ton affaire. Ressuscité, corps de mon âme, je suppose, Dieu me pardonne !» que le gentleman avait bu. Cette réponse lui causait de telles perplexités qu'à diverses reprises il avait ôté son chapeau pour se gratter la tête. Excepté sur le sommet du crâne, où il était misérablement chauve, le messager de Tellson avait des cheveux noirs et roides, inégalement répartis, et vaguant dans toutes les directions, depuis la base de l'occiput jusque, pour ainsi dire, à l'origine d'un nez large et camard. Ses cheveux hérissés rappelaient tellement les broussailles de fer qui garnissaient la crête de certains murs que les plus habiles sauteurs n'auraient pas accepté notre homme au cheval fondu en raison de cette chevelure menaçante. Tandis qu'il revenait à Londres, rapportant le message qu'il devait délivrer au watchman établi à la porte de Tellson, afin que celui-ci pût, à son tour, le transmettre à qui de droit, les ombres de la nuit formaient à ses yeux des contours bizarres, suscités par le message dont il était porteur, et à ceux de la vieille jument certaines formes qui naissaient des inquiétudes de la pauvre bête, Inquiétudes nombreuses, si l'on juge par les écarts que faisait la maigre Aquenée pour s'éloigner des fantômes qu'elle voyait sur la route. La malle-poste de Douvres, pendant ce temps-là, roulait pesamment, grinçait, tintait, raclait, bondissait et cahotait les trois individus mystérieux que renfermait son intérieur. Il est probable que les ombres de la nuit se révélaient à ces messieurs, ainsi qu'à l'émissaire et à sa bête, sous la forme que leur suggéraient leurs préoccupations et leurs paupières gonflées par le sommeil. Parmi celles qui hantaient la malle-poste de Douvres était la maison Tellson. Monsieur Lory, un bras dans la courroie qui l'empêchait de tomber sur son voisin et le retenait à sa place quand la voiture faisait un bond trop fort, se penchait en avant et balançait la tête, les yeux à demi fermés. Bientôt les lanternes, qui scintillaient obscurément à travers les vitres brumeuses, le corps massif du voyageur qui était en face de lui, se transformèrent en maisons de banque et firent un nombre prodigieux d'affaires. Le tintement des harnais fut le cliquetis des écus, et en moins de 5 minutes, il fut payé plus de bons et de lettres de change que Tellson et compagnie, malgré leurs immenses relations, n'en payaient en un jour. Puis les caveaux de la banque, remplis de valeurs et de secrets importants, s'ouvrirent devant M. Lory, qui les parcourut, tenant d'une main une chandelle fumeuse, de l'autre un paquet d'énormes clés, et qui les trouva précisément dans le même état qu'à sa dernière inspection. Mais, bien qu'il fût toujours chez Tellson, et qu'il n'eût pas quitté la voiture, dont il sentait vaguement la présence, comme on a le souvenir d'une plaie couverte d'opium, il ne cessa pendant toute la nuit d'être sous l'impression de cette idée qu'il allait à Paris pour déterrer un mort et le sortir du tombeau. Parmi cette multitude de faces livides qui surgissaient devant lui, quelle était celle du revenant qu'il allait déterrer? Rien ne le lui indiquait. Tous ses visages étaient celui d'un homme de 45 ans et ne différaient entre eux que par les passions qu'ils exprimaient et par l'aspect plus ou moins effrayant de leur masque décharné. L'orgueil, le mépris, la colère, le soupçon, l'entêtement, la stupidité, la faiblesse et le désespoir passaient devant ses yeux tour à tour, ainsi qu'une variété de joues osseuses, de teint cadavéreux, de mains amaigries, de squelettes desséchés. Mais au fond, c'était toujours la même figure, la même tête prématurément blanchie. Pour la 100e fois, notre voyageur adressa au spectre la question suivante. « Combien y a-t-il que vous êtes enterré ?»« Bientôt 18 ans. » répondit le spectre qui 100 fois lui avait dit la même chose. N'aviez-vous pas renoncé à l'espérance de revoir le jour? Depuis longtemps. Vous savez que vous êtes rappelé à la vie. On m'en a prévenu. Êtes-vous content de revivre? Je ne sais pas. Faut-il que je vous l'amène ou viendrez-vous la chercher? À cette question, les réponses étaient contradictoires. Parfois le spectre murmurait d'une voix brisée « Il faut attendre, sa présence me tuerait si vous la meniez trop tôt. » Parfois il disait avec amour et en fondant en larmes « Conduisez-moi près d'elle. » Ou bien il s'écriait d'un air égaré « Que voulez-vous dire? Je ne connais personne et je ne vous comprends pas. » Après ce dialogue imaginaire, M. Lory, toujours en pensée, creusait, 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 tantôt avec une bêche, tantôt avec une grosse clé, tantôt avec ses ongles, pour délivrer le malheureux qu'il devait rendre au jour. Le spectre finissait par être tiré de sa fosse, la figure et les cheveux remplis de terre sépulcrale, et retombait tout à coup, ne laissant qu'un peu de cendre à la place qu'il occupait. Le gentleman se réveillait en sursaut et baissait la glace afin de se replonger dans la réalité, en sentant la pluie et le brouillard lui mouiller le front et les joues. Mais les yeux ouverts, regardant tour à tour le ciel brumeux, la lueur mouvante qui s'échappait des lanternes, la haie dont le chemin était bordé, M. Lory voyait au dehors les mêmes formes que celles dont il était assailli à l'intérieur. La maison Tellson, les affaires du jour précédent, les caveaux de la banque et leurs mystères, le billet qu'il avait reçu, la réponse qu'il avait faite à Jerry. Tout cela était dans le brouillard, et du milieu de ces images, à la fois confuses et d'une incroyable réalité, s'élevait un spectre livide qui l'interrogeait de nouveau. « Combien y a-t-il que vous êtes enterré ?»« Bientôt 18 ans. »« Êtes-vous satisfait de revivre ?»« Je ne sais pas. » Et il creusait, creusait, creusait encore, jusqu'à ce qu'un voyageur, faisant un mouvement d'impatience, lui dit sèchement de fermer la glace. Il remettait son bras dans la courroie, se demandait quels pouvaient être ses compagnons de voyage. Et, de conjecture en conjecture, il en arrivait à retrouver dans les deux masses endormies la maison de banque, le spectre aux yeux caves, et se reprenait à dire « Combien y a-t-il que vous êtes enterré ?»« Bientôt 18 ans. » N'aviez-vous pas renoncé à l'espérance de revoir le jour ? Depuis longtemps. Ces derniers mots vibraient encore à son oreille, aussi distinctement que les paroles les plus nettes qu'on lui eût jamais dites, lorsqu'il s'éveilla tout à coup et vit s'enfuir les ombres de la nuit que chassait la venue du jour. Il mit la tête à la portière et dirigea ses regards vers le soleil levant. Un sillon où le laboureur avait laissé la charrue frappa ses yeux. Plus loin, on voyait un jeune bois, dont les branches avaient conservé de nombreuses feuilles d'un rouge vif et d'un jaune d'or. La terre était humide et froide, mais le ciel était pur et le soleil répandait partout sa lumière féconde et brillante. « 18 ans, » murmura M. Lorry en contemplant le soleil. « Ô divin créateur du jour, être enterré vivant pendant 18 années !»